Chapitre 13. La Croix verte. Le troisième étage du tipi ressemblait aux planches sur lesquelles on étale les poissons qu'on vient de pêcher, qui se débattent, se tortillent, en manque d'air, les yeux exorbités, avant de cesser de s'agiter et, petit à petit, de mourir asphyxiés. C'était du moins ce que pensait Mordelia en descendant les escaliers et en découvrant les enfants allongés qui se tenaient le ventre sans parvenir à dormir ni cesser de gémir. Mordelia comptait une bonne dizaine de malades. Régulièrement, il se levait pour vomir par-dessus les poutres de fer dans le champ désert au-dessous. Ça les soulageait quelques heures, avant de souffrir encore plus, l'estomac vide. Mordelia dissimula son mépris lorsqu'elle se pencha au-dessus des enfants alités. Akane les avait pourtant prévenus. Il ne fallait pas toucher aux animaux, pas même aux oiseaux, pas même aux œufs. Il fallait les faire goûter d'abord par les rongeurs capturés. Si au bout de quelques heures, les souris étaient toujours en bonne santé, alors la viande n'était pas empoisonnée et on pouvait la manger. Mouk attrapa Mordelia par le pli de sa robe, la suppliant du regard, comme si elle était magicienne et qu'elle pouvait repousser le mal d'une simple imposition des mains. Quel crétin ! Pesta Mordelia dans sa tête. Au moins autant que cette zinzin de Chrysanthe, qui avait allongé sa poupée sur un lit de paille à côté des malades, lui épongeait le front avec un chiffon et lui parlait à voix basse, comme si sa Lali, elle aussi, avait été frappée par l'épidémie. À part les râles des malades, le troisième étage était silencieux. Tous, évidemment, attendaient que Mordelia parle. Mordelia hésitait. Elle avait l'impression que la douleur des garçons et filles alités n'était pas très grave. Foudroyante, certes, mais elle passait vite. Exactement comme quand les enfants se gavent de prunes ou de mûres trop vertes, ou boivent de l'eau restée trop longtemps dans les gourdes. Ils se vident pendant quelques jours, puis le mal de ventre s'en va aussi vite qu'il est venu. Auriel et Noam, contaminés il y a 3 jours, étaient déjà debout. Le plus préoccupant, estimait Mordelia, n'était pas ce mal de ventre, mais qu'une partie de la nourriture qu'on trouvait dans la nature était devenue immangeable. Quiconque l'ingurgitait la vomissait, et petit à petit, s'affaiblissait. Avec le froid qui arrivait, les enfants ne pourraient pas tenir sans manger. Et d'après les comptes de cette petite crâneuse blonde de Vanille, les stocks de provisions seraient épuisés avant la fin de l'hiver. Le problème, avait compris Mordelia, n'était pas de guérir, mais de se nourrir.
« Je vais mourir, Mordelia !»
gémissait ce gros douillet de Mouk. Une force d'ours et un courage de lapin. Mordelia se retint de repousser l'enfant alité du bout du pied. Elle sentait tous les regards braqués sur elle. Ces gosses n'étaient que des bébés pleurnichards. Mais si elle n'agissait pas, si elle ne parvenait pas à accélérer la guérison de ces malades, tous commenceraient à la soupçonner. Elle perdrait son autorité. Elle était condamnée en permanence à faire des miracles, soigner, soigner, soigner. « C'est le destin des sorcières, » soupira-t-elle pour elle-même. « Les enfants les détestent et pourtant ils ne peuvent pas se passer de leur pouvoir. » Sauf qu'elle n'avait pas les moyens de tous les guérir, du moins pas dans l'immédiat. La sorcière devait d'abord remplir sa marmite. Mordelia leva les yeux, son chevalier servant se tenait parmi les autres enfants du troisième étage.
« Bill, j'ai besoin de toi. »
Bill ne discuta pas. Il se contenta d'enfiler sa cape en peau de taureau et de suivre Mordelia qui, sans un mot, continua de descendre les étages du tipi, laissant les malades, surpris, à leur agonie. Une fois sortie de la tour, Mordelia se dirigea droit vers la ville, à l'opposé du fleuve. Elle se tourna vers Bill.
« Tu sais garder un secret ?»
Mordelia marchait vite. Et Bill trottinait à ses côtés comme un petit chien dévoué et féroce. Il secoua la tête pour confirmer. Un secret ? Il pourrait se couper la langue pour ne pas le révéler. Mordelia franchit la rue près du tipi et s'arrêta juste après, au bord du grand champ plat que ceux qui savaient lire appelaient le stade, et où tous se retrouvaient pour jouer à balle d'autruche. Ce jeu que Bill adorait, qui consistait à se passer une boule de cuir ovale sans se faire plaquer au sol par ceux de l'autre équipe. Mordelia fouilla sous sa cape noire de laine, sortit son sac, l'ouvrit et fit le geste d'en retirer un livre. Bill retenait son souffle. Personne n'avait jamais pu voir de près les fameux trois livres que Mordelia conservait en permanence sur elle, qu'elle lisait et relisait, loin, toujours loin des groupes d'enfants. Les pires rumeurs couraient sur ces livres. La plupart des garçons et filles du tipi pensaient qu'ils contenaient des pouvoirs étranges. Voir au-delà des étoiles, parler aux animaux, devenir invisible, lire dans les pensées, diriger la course des nuages, se souvenir des rêves, provoquer la tristesse, deviner l'avenir. L'imagination des enfants du tipi était sans limite.
Regarde, Bill. Tu ne devras le répéter à personne.
Mordelia sortit le premier livre et referma vivement le sac pour que Bill ne puisse pas apercevoir les deux autres volumes. Bill observait, sans comprendre. Il avait su lire, comme les autres enfants du tipi, quand il avait 6 ou 7 ans, mais il avait oublié depuis. Lire ne servait à rien. Alors il se contenta de regarder l'image sur la couverture du livre que Mordelia levait devant ses yeux. Il vit une croix. Une simple croix verte.
Ce livre révèle le secret de la guérison de toutes les maladies, expliqua Mordelia d'une voix envoûtante. Les ventres qui se tordent, les nez qui coulent, les genoux qui saignent, les douleurs qui frappent la tête de l'intérieur, presque toutes les maladies. Et surtout, il donne le nom des graines qui permettent de les soigner.
Bill était fasciné. Ainsi, Mordelia tenait son pouvoir d'un livre. Cette fille était si différente. Quelle chance que ce soit lui, seulement lui, qu'elle ait choisi pour la protéger. Car il était là pour ça, Bill l'avait compris, pour défendre Mordelia en cas de mauvaise rencontre, un animal errant ou même un autre enfant, un enfant du château. Mordelia était une fille si intelligente, mais si fragile aussi. Tant qu'il était là, à ses côtés, rien ne lui arriverait. Bill se hissa autant qu'il le put sur ses petites jambes et bomba son large torse.
« Il te faudra longtemps pour faire pousser ces graines ?»
Bill avait déjà vu Mordelia les utiliser pour soigner des enfants. Il avait du mal à comprendre comment elles poussaient, où elles fleurissaient, d'autant plus qu'elles les sortaient le plus souvent de petites boîtes rangées dans son sac. Mordelia ne se donna pas la peine de répondre. Elle lui demanda simplement d'obéir.
« Je sais que tu ne sais pas lire. » Mais tu as une bonne vue. Nous devons chercher une croix verte, la même que celle sur ce livre.
Une chasse au trésor, pensa Bill, comme celle qu'il se racontait parfois le soir, blotti autour d'un feu. Bill se souvenait d'avoir croisé plusieurs de ces croix vertes dans des rues proches. Seul Zizo connaissait la ville mieux que lui. Et puisque Zizo avait été dévoré par ceux du château, il était désormais le meilleur guide de toute la tribu. « Suis-moi » ordonna-t-il à Mordelia, fier d'accomplir cette tâche dont dépendait la survie du tipi. Bill fit appel à sa mémoire, sortit du stade et tenta de se repérer dans les rues. Mordelia marchait à côté de lui.
« D'abord, je vais te guider vers une croix verte !» proclama Bill. « Puis je trouverai l'origine du mal dans la forêt et tous les enfants pourront se nourrir comme avant. »
Plus que jamais, il redressait son torse, tel un canard amoureux qui étire son cou et caquette du bec.
« Tu ne retourneras pas dans la forêt, » annonça Mordelia. « Agnel ira seul, avec quelques enfants. »
Bill, surpris, ralentit, mais Mordelia continuait de progresser à la même vitesse, sans savoir où elle allait. Sa cape noire volait autour d'elle. Bill courut quelques mètres pour la dépasser à nouveau. C'était à lui de la guider.
« Pourquoi ? Tu n'as pas confiance en moi ?»«
Au contraire, » répondit Mordelia. « J'ai besoin de toi ici, dans la ville. La paix ne viendra pas de la forêt. »
Bill fit signe de tourner à droite. Il était quasiment certain qu'une croix verte se trouvait quelques rues plus loin. Il se baissa et renifla le sol gris sur lequel il marchait, comme si la croix verte, tel un faisan ou une perdrix, possédait une odeur dont il pouvait suivre la piste. Mordelia haussa les épaules et poursuivit.
« La paix ne viendra que si nous savons gagner la guerre. » Elle marqua un silence. « La guerre contre les enfants du château. »
« Quand ?» demanda Bill en se relevant, essoufflé.
« Bientôt.
Très bientôt, dès que nous serons prêts. Peut-être même avant la veillée du sanctuaire. Bill accélérait le pas maintenant. Plus besoin de s'amuser à renifler les pierres, il connaissait le chemin. Il était l'éclaireur. Zizo était mort.
« C'est moi qui commanderai l'assaut du château ?» suggéra Bill.
Mordelia s'arrêta cette fois, un bref instant. Le temps de regarder le garçon comme s'il lui avait proposé de la monter sur ses épaules pour décrocher le soleil de fer. « Ne sois pas stupide, Bill. Tu sais bien que c'est Akan qui nous mènera à la victoire. » Bill ressentit un violent coup au cœur, plus fort encore que lorsqu'il s'était cogné la poitrine contre celle de Mook, lors d'une partie de balle d'autruche, le souffle coupé. Il s'efforça de ne rien laisser paraître.
« Akan ne veut pas de la guerre !» osa argumenter Bill.
« Akan veut tout faire pour l'éviter, et il a raison. Akan a pour devoir de porter un message d'espoir. Mais je sais, et lui aussi le sait, que la guerre est inévitable. Akan nous portera la victoire. Le moment venu, Akan sera un chef impitoyable, crois-moi. Ne t'avise jamais de discuter son autorité. Tu as compris ? Jamais !»
Bill ne répondit rien et rentra la tête dans les épaules. Il traversa la rue d'un pas déterminé.
Une croix verte se trouverait à l'angle de la rue suivante, il l'aurait juré.
Mordelia serait au moins obligée de lui reconnaître ce talon-là.
Dans la tête de Bill, jalousie et sentiment d'injustice se mêlaient.
Akan était peut-être plus fort que lui, plus intelligent, mais il ne mettait jamais les pieds dans la ville.
Il profitait de Mordelia, de son pouvoir, l'écoutait quand ça l'arrangeait et se méfiait d'elle le reste du temps.
Mais surtout, il ne l'aimait pas. Pas comme Bill aimait Mordelia, en tout cas.
Akan ne lui était pas dévoué. Il n'était pas prêt à mourir pour elle.
« On arrive !» déclara sobrement Bill.
Triomphant, il désigna au coin de deux rues face à lui un mur de verre surmonté d'une grande croix verte, accroché au-dessus des lettres peintes sur le mur et qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Pharmacie !» Mordelia fixa Bill en souriant, impressionné, et ce sourire valait toutes les noisettes grillées du monde, tous les couchers de soleil sur le tipi, et tous les rêves dont il se souvenait depuis qu'il était petit.
« Attends-moi là !» fit Mordelia.
Elle ouvrit le livre tout en traversant la rue et disparut derrière la vitre.
« Ne crains rien !» cria Bill. « Je monte la garde !»
Le garçon essaya de se concentrer sur les rues vides, les arbres prisonniers dans leurs grilles de fer, les hauts poteaux le long des rues auxquelles étaient suspendues d'étranges boules transparentes, les petites maisons de fer et de verre posées chacune sur quatre roues le long des trottoirs. On en trouvait partout dans les rues de la ville, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Parfois, Bill imaginait qu'avant ces roues tournaient et que les petites maisons avançaient dans les rues, comme des sortes de chariots magiques capables de rouler plus vite qu'un cerf au galop. Mais, pour une fois, il gardait cette idée pour lui. Elle était tellement farfelue que personne ne l'aurait cru. Il avait beau essayer de penser à autre chose, la colère continuait de souffler sous son crâne. Il repassait en boucle dans sa tête les paroles de Mordelia.
C'était à lui qu'elle devait faire confiance, pas à Akan. C'était à lui que revenait l'honneur de faire la guerre contre ceux du château. C'était son idée, depuis le début.
Mais pour cela, il fallait qu'il en fasse davantage pour gagner l'estime d'une telle fille. Pour elle, il devait devenir le héros de la tribu. Akan donnait des ordres, distribuait les corvées, punissait.
Mais il n'avait jamais rien fait pour le tipi. Rien qui fasse de lui un héros.
Tout en scrutant les rues, Bill cherchait une idée. Un chat se faufilait entre deux maisons, portant une souris dans sa gueule.
L'avait-il capturée pour la rapporter à ses chatons? La souris était-elle empoisonnée? Ou pas? C'est ça l'idée, jubila soudain Bill. Trouver à manger?
De la nourriture en abondance, et pas empoisonnée. Tout le monde le prenait pour plus bête qu'il n'était.
D'accord, il ne savait peut-être pas lire, comme Agnelle, Cheyenne ou Vanille, mais lui aussi possédait un livre. Et comme pour Mordelia et sa croix verte magique, ce livre était son arme. Dans son livre d'images d'animaux, certaines bêtes étaient si énormes que s'il les découvrait, une seule d'entre elles suffirait à nourrir tous les enfants du tipi pendant une année entière.
Tout en regardant le chat disparaître dans un trou sous la rue, Bill s'imagina rapporter au tipi, sur ses épaules si larges, un lion, un tigre, un ours, ou même un hippopotame ou un éléphant. Il prendrait alors un nouveau nom, celui dont il rêvait depuis qu'il était né. King Bill.